CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Mesdames, messieurs, bonjour. Rémi Thoreau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Je vous propose une rencontre avec Maïlys de Kerangal aujourd'hui. Elle est l'invitée d'honneur du festival Lettres d'automne qui a débuté hier soir en grande pompe au théâtre Olympe de Gouges par une rencontre autour de cette invitée d'honneur et du thème qu'elle a choisi, les paysages. Maïlys de Kerangal, j'ai eu le plaisir et le privilège de la rencontrer juste avant qu'elle monte sur la scène du théâtre Olympe de Gouges hier soir. C'était dans le petit bistrot du théâtre Olympe de Gouges, rencontre ordinaire avec Maïlys de Kerangal.
Normal, noir, ouais, noir, sans sucre, rien, juste un petit café. Merci.
Maïlys de Kerangal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes invitée d'honneur du festival Lettres d'automne. Alors déjà, quelles sont vos impressions en arrivant ?
Alors écoutez, j'étais déjà venue à Montauban, mais assez rapidement. Donc déjà, je suis très contente d'y rester un peu plus longtemps, parce que le festival dure 15 jours et voilà, je vais être pas mal sur place. Je trouve que la ville est magnifique, donc c'est déjà un grand plaisir. Mais surtout, le plus important, c'est voilà, la rencontre avec l'équipe de lettres d'automne. La préparation de ce festival a été un moment important pour cette équipe, pour moi. Et voilà, on est tous assez fébriles, heureux d'être là. Et voilà, on espère qu'on va partager justement les textes, les livres, les voix au cours de ces 15 jours. C'est un privilège pour un auteur d'avoir une telle... Voilà, une telle invitation.
Vous avez choisi paysage comme thématique, ce festival.
Oui, j'ai choisi paysage parce que je trouve que c'est un mot qui permet de faire rayonner beaucoup de thématiques, à la fois la question des lieux, qui est très importante dans mon travail, la manière dont les lieux... recèlent, contiennent des histoires, la manière dont ils les diffusent aussi. Les lieux sont un peu comme des moteurs narratifs. Je ne pense pas qu'on puisse réellement écrire des histoires qui flottent dans des lieux qui, enfin, sans lieu. Et moi, j'aime que mes livres soient raccordés à des géographies qui peuvent être... imaginées ou qui peuvent être réelles. Cette inclination pour la géographie, pour les paysages, elle est aussi liée au fait que dans le terme paysage, pour moi, il y a une question de poétique, hein, c'est-à-dire que les paysages, c'est un petit peu comme les livres, on les lit, mais chacun a sa propre lecture, on ne les voit pas de la même manière. Le paysage, il est en soi. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut partager. Et c'est aussi, je trouve, quelque chose que je relis beaucoup à la mémoire. Hein. C'est-à-dire, il y a cette définition qui est très belle, qui était donnée par Gilles Clément, qui disait, voilà, c'est aussi ce qui reste une fois qu'on a fermé les yeux. Donc, pour toutes ces résonances, ces échos, la manière dont ça travaille aussi la langue... voilà, j'ai trouvé que c'était un thème qui pouvait accueillir beaucoup. C'est un thème assez large. Voilà, j'ai souvent dans l'idée qu'un livre, voilà, doit, enfin, c'est pas devoir, mais les livres que j'aime laissent un paysage quand même. Vous voyez, c'est comme une espèce d'empreinte dans la mémoire. Et voilà, pour toutes ces raisons, je trouve que c'est un mot que j'aime et qui permet, je pense, de rassembler aussi tous les auteurs qui vont venir et puis les acteurs, c'est important.
Alors justement, parmi les auteurs, les acteurs invités, il n'y a pas que des auteurs, hein, il y a un petit peu une panoplie de tout, à la fois des métiers artistiques, mais pas que, des métiers scientifiques qui sont dans votre carnet d'invitation. Quels sont les mots, les noms là, qui vous viennent ?
Bon, il y a quand même d'abord, il y a des auteurs qui viennent lire. Hein. Il y a l'idée de continuer peut-être cette tradition de la lecture à voix haute. Moi-même, je ferai une lecture, mais sinon, Gaël Obiegli va venir lire, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Il y a des romanciers, il y a des gens qui travaillent plus l'enquête, le documentaire, des textes qui sont pas forcément tournés vers la fiction, mais qui sont tournés vers une façon de représenter le monde. Il y a un anthropologue qui sera là, Grégory Delaplace. Et je trouve que pour toutes ces personnes, je pense que la notion de paysage, elle active quelque chose d'assez profond, d'assez fort. Moi, les scientifiques, alors il y a un photographe avec lequel je vais faire la clôture de ce festival, qui travaille un peu aux limites de la poésie et de la précision scientifique, hein, puisqu'en fait c'est un travail autour des étoiles, et donc on est proche aussi des calculs d'astrophotographie. Dans mon travail à moi rentre beaucoup de... Il y a une dimension documentaire, une dimension qui est tournée quand même vers les sciences, en tout cas pas forcément les sciences, mais la question des savoirs, la question de la connaissance, plus que les sciences, la connaissance, parce que justement, Gaël Obiegli a une très belle phrase dans son livre. Elle dit « Pas le savoir qui intimide, mais la connaissance qui émerveille ». Et c'est vrai que les livres sont aussi des petits recueils de savoir, enfin, recèlent de la connaissance. Et moi-même, je pense que quand j'étais adolescente, j'ai lu pour connaître comment vivaient les... Comment vivaient on vivait auparavant, comment s'aiment les adultes, comment. Vous voyez, il y a une dimension de connaissance que je trouve très belle. Et j'aime beaucoup l'idée que la fiction, le roman, des histoires inventées sont capables de donner une représentation du monde qui s'articule avec justement une notion de connaissance. C'est-à-dire que dans la poétique, dans la poésie, dans la beauté littéraire, il y a une façon aussi de comprendre, peut-être de déchiffrer le monde dans lequel on vit, et qui est quand même un chaos assez indéchiffrable par moment.
Maïlys de Kerangal, propos recueillis hier soir dans le petit bistrot du Théâtre Limbe de Gouges, où était lancé, inauguré ce 33e festival Lettres d'automne. Un peu de musique et on revient en conversation avec Maïlys de Kerangal, avec même une lecture dans quelques instants.
C'est arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en 2 minutes je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes aux pieds, pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Les parents et les enfants de l'autre côté, on était bien alignés comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Même comme ça, qu'on est tous là enchaînés. Pas moyen de se lever, pas moyen de se laver. Paraît que c'est la félicité, puisqu'on est tous baptisés.
Promis le ciel d'Elgrès dans le mag de CFM Montauban, consacré aujourd'hui à Maïlys de Kerangal, que j'ai eu le plaisir de rencontrer hier soir lors de l'inauguration du festival Lettres d'automne.
on va parler de un chemin de table qui est une sorte de presque de documentaire en immersion dans le parcours d'un jeune cuisinier depuis ses études jusqu'à ce qu'il soit son propre chef dans son propre restaurant.
Ouais. Oui, j'avais envie de travailler sur la vie d'un jeune cuisinier, d'essayer d'attraper encore un motif de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est quelque chose qui me... C'est aussi un âge de promesses, un âge où le futur est encore loin. Il y a cette phrase « l'avenir dure longtemps », hein, ça c'est le titre d'un autre livre. Mais lui, ce jeune cuisinier, c'est un personnage réel, mais la personne qui raconte son histoire est une fiction. C'est-à-dire, pour moi, ce livre est vraiment... à la frontière de la fiction et du documentaire, la langue, justement, littéraire qui est en œuvre pour raconter l'histoire de Mauro, elle déporte le livre vers la littérature, et le fait que la narratrice soit un personnage de fiction, et notamment... ce qui est fictionné, c'est son amitié avec le jeune cuisinier, la manière dont ils peuvent partager certains moments. Tout cela, c'est pour moi, ça fait partir le livre vers la fiction. Mais pour pouvoir l'écrire, j'ai dû assister à des services dans des grands restaurants, et donc absolument comprendre les rythmes d'une journée de travail dans un restaurant, avec ce rythme extrêmement particulier, toutes les étapes qui scandent la journée d'un établissement qui compte toujours quand même deux services, hein, au moins. J'ai aimé aussi essayer de retracer un itinéraire, c'est-à-dire dans le cas de Mauro, c'est pas un garçon qui était mis sur orbite pour devenir cuisinier, il a un peu tâtonné. Ça, je trouvais que c'était intéressant. C'est-à-dire que ça permettait d'aller un peu contre les clichés qui voudraient que finalement, quand on ne veut pas faire des études, etc., on est cuisinier. Au contraire, c'est un métier que lui a pu faire et qu'il a pu appréhender aussi parce que il était passé par des études avant qui lui ont peu ou pas servi, mais en fait c'était aussi une façon de... il s'est questionné, voilà ce que je veux dire, c'est qu'il s'est questionné, c'était pas l'avenir tout tracé, et je trouve que ce questionnement on le sent dans le livre, c'est quelqu'un qui remet toujours un petit peu en cause, bon il a un peu la bougeotte, il passe d'un restaurant à l'autre. Et quand je l'avais rencontré, ce qui m'avait vraiment fascinée, c'est la pluralité des expériences qu'il avait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait travaillé dans une brasserie ou dans un petit bistrot, dans un restaurant un petit peu plus bon marché, mais avec des très gros services dans la banlieue parisienne, dans un restaurant très chic, etc. Et aussi d'essayer d'attraper un peu la nouvelle cuisine, les cuisines la manière dont la cuisine a changé ces derniers temps, hein, et dont les cuisiniers sont devenus finalement des sortes de stars contemporaines, chose qu'elles étaient pas tant que ça. C'est-à-dire que le cuisinier, il était dans sa cuisine avec cette porte fermée. Hein. Aujourd'hui, les cuisines sont ouvertes sur les salles, mais à l'époque, voilà, il y avait cette part de double battant. Donc, il y avait cet homme dans son antre qui sortait de temps en temps et qui avait l'air un peu comme un magicien, etc. Et aujourd'hui, les cuisiniers sont des êtres qui communiquent, qui sont très rompus finalement à la modernité. Je ne dis pas du tout qu'ils ont perdu leur part magique, mais en tout cas, ils ce ne sont plus les mêmes types sociaux. Par exemple, c'est lié aussi au fait que la télévision a transformé les cuisines en studio avec toutes ces émissions de télé-réalité sur la cuisine. Ils ont accédé à des formes de, de, de célébrités, ils deviennent un peu des people. Ça, c'est très très différent.
Il regarde ça d'ailleurs, il regarde ça d'un œil un peu.
Lui, c'est pas trop son, c'est pas trop son truc. C'est un être. Le personnage du livre est un être assez sauvage, assez mutique, extrêmement passionné, mais des êtres qui ont des passions un peu rentrées, quoi. C'est pas un grand expansif, mais pour écrire le livre, on s'est parlé longtemps, en fait. On a dû se parler longtemps.
Est-ce que j'oserais vous demander juste la lecture d'un petit passage ?
Mais oui, avec plaisir.
Alors, évidemment, c'est ce Merci passage beaucoup. Où il a décidé d'aller en stagiaire gratuit dans un très grand restaurant. Et où, évidemment, il va déchanter. Donc, peut-être à partir d'ici, vous voyez, et jusque-là,
d'accord.
En fait, partie où, en fait... Où...
C'est vrai. C'est un peu le moment du livre où les choses s'assombrissent quand même. Hein. Le livre est construit un type de restaurant, un chapitre, et quand même, il y en a eu beaucoup jusqu'au sien, et un plat aussi. Mauro déchante. On lui parle comme à une merde. On le houspille, on le harcèle. Impression d'avoir toujours quelqu'un sur le dos, une présence dans le cou, une gorge dans l'oreille. Constat qu'en ces lieux, toute parole n'est qu'un concentré de directives émises à toute allure, directives auxquelles les seules réponses tolérées sont des hochements de tête, des acquiescements. Par ailleurs, on ne lui montre pas grand-chose non plus. À lui de s'adapter, à lui d'observer et de comprendre, à lui d'apprendre sans ralentir la cadence générale, sans faire peser son inexpérience et ses lacunes sur l'ensemble de la cuisine. Tu te démerdes et tu bosses. Une situation que Mauro accepte d'autant plus mal qu'il travaille gratos. Selon lui, le deal n'est pas respecté. Un matin, au beau milieu du service, Mauro reçoit en pleine figure une cuillère à pommes parisienne en métal. Il n'a pas choisi le bon diamètre pour lever les billes de pommes. Le choc le surprend, il pousse un cri, vacille, son nez saigne. Il jette autour de lui un coup d'œil circulaire. Chacun s'active en silence. Il ne croise aucun regard. De son poste, le chef lui crie de ne pas faire le malin et de tout reprendre Fissa comme il le lui a demandé. C'est quand même pas compliqué. Mauro desserre les doigts, lâche son ustensile, un économe, s'essuie le nez d'un revers de la main, s'essuie les paumes des mains sur son tablier à hauteur du thorax, puis rassemble ses couteaux, les lave lentement, les essuie avec soin, les range dans leur étui, déboutonne sa blouse, tandis qu'autour de lui, certains maintenant ralentissent, lui jettent des coups d'œil par en dessous, mais sans moufter, sans s'interrompre. Puis, toujours calme, il saisit son étui, traverse la cuisine en direction de la porte, passe devant le chef qui maintenant lui tourne le dos et continue d'agir comme s'il n'avait rien vu, comme s'il ne voyait rien, quand, à l'instant de quitter la salle, Mauro laisse traîner une main sur le plan de travail, laquelle entraîne dans son sillage un grand bol en inox qui rebondit avec fracas sur le sol, tandis que la porte bat derrière lui. Je l'ai déjà vu quitter de la sorte des repas, des cours, des salles de cinéma et même des filles. C'est un départ qui lui ressemble, silencieux et déterminé, comme si rien ne pouvait le retenir quelque part quand il a décidé d'en finir. Rien.
Ah, et là, il est parti pour ailleurs. Et dans cet extrait, il y a à la fois le paysage de cette cuisine, la précision des ustensiles, des gestes, et le mouvement, la mise en mouvement dans le temps. Et puis...
Oui, mais c'est un moment... en fait, ce qui a beaucoup joué dans le fait que je m'intéresse à ce livre, c'est que précisément qu'à un moment donné, les spots télévisuels éclairaient les cuisines. Mais on avait quand même l'impression que c'était pas vraiment comme ça que ça se passait. Et que la cuisine demeure quand même un lieu assez secret, assez occulte. Et il y a quand même cette histoire de violence qui traverse ces entreprises. Donc la passion, l'exigence, la précision, certes, mais la violence aussi. Parfois par les mêmes. Et là, ce coup qu'il reçoit, finalement... montre aussi que c'est un être assez insoumis, assez rebelle, et le fait de recevoir cette cuillère va effectivement l'amener à très lentement, de manière très déterminée, sans éclat mais avec beaucoup de conscience, il va finalement partir. Et donc il y a ce long mouvement où ce qui me semblait important, c'était de montrer que personne ne vient l'aider, quoi. Mmh. Ouais. Ça, c'est aussi l'idée que c'est un monde assez autoritaire. Hein. Il y a encore beaucoup de cuisines qui sont organisées avec ces acquiescements qui sont « oui, chef, oui, chef, oui, chef ». Il y a quelque chose d'un peu militaire, on dit une brigade, on dit, voyez, bon, ça. Il faut parfois accepter cette autorité et savoir s'y adapter pour pouvoir survivre dans de tels milieux et vivre sa passion. Et c'est vrai que lui, il a choisi un autre chemin. Voilà, c'est quelque chose qu'il a pas supporté, en fait. Surtout, je pense, peut-être plus encore, la manière dont on s'adresse. Parce que ce terme de houspiller, je l'ai entendu pas que chez lui, je l'ai souvent entendu auprès de gens qui travaillent en cuisine. C'est les jeunes qui travaillent sont souvent houspillés, c'est-à-dire mis sous pression. On ne leur dit pas grand-chose, il faut qu'ils se débrouillent, on ne leur explique rien, les phrases sont hachées. Et en fait, ils sont un peu comme dans la houle, pris dans une espèce de grande houle, et il faut qu'ils se débrouillent. Et c'est très dur, en fait, c'est très dur.
Bon, le plus beau mot de votre livre, je trouve, personnellement, c'est « commensaux ». Enfin, « commensal ».
Ah oui, c'est beau.
On n'utilise plus.
Non. Alors, c'est dommage parce que ça dit bien vraiment le partage, en fait. Convive est pas mal, mais commensal, justement, il y a l'idée du paysage et puis l'idée d'être ensemble.
C'est ce que vous allez faire pendant tout ce festival.
Voilà, et c'est vrai qu'on va être tous des commensaux à Montauban autour de cette question des livres et de la lecture et puis de... Je pense, de ce type de partage, en fait. Voilà, ça va être. Je pense que ça sera chouette.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà une conversation que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Maëlys de Kerangal hier soir, juste avant qu'elle monte sur scène pour inaugurer cette 33e édition du festival Lettres d'automne. Aujourd'hui, à 19h, au Théâtre Olympe de Gouges, ne ratez pas la rencontre lecture avec Gaël Obiegli autour de son ouvrage Totalement Inconnu. C'est gratuit et c'est sur réservation.
Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr